VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 octobre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, arrestation d'une trentaine de personnes en marge d'une manifestation à Douala.
En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir tiendra son propre meeting à Kinshasa le 27 octobre, au lendemain de celui de l'opposition.
Au Mali, création à Bamako d'un mouvement appelé Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali.
À Kaduna, au Nigeria, couvre-feu de 24 heures après la mort de 55 personnes la semaine dernière dans des affrontements intercommunautaires.
En Turquie, le président Erdogan promet la vérité nue sur le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au moins 30 personnes ont été interpellées hier en marge d'une manifestation interdite à Douala, organisée par un député de l'opposition, et ce, à la veille de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Jean-Michel Nenche, député du SDF, avait donné rendez-vous à 15h sur un rond-point de Douala pour dénoncer les fraudes massives et honteuses qui ont marqué le scrutin selon l'opposition. Le sous-préfet de Douala 3, Nou Bello, avait interdit la manifestation pour menace de troubles à l'ordre public. Monsieur Nenche ne s'est pas rendu à la marche. La police a encerclé son domicile. Il n'a pas pu sortir de la journée, a indiqué un membre de son parti. L'opposante Kawala a dénoncé sur les réseaux sociaux avoir été elle aussi en résidence surveillée totalement illégale dimanche après que des policiers ont pris position autour de son domicile jusqu'au soir. Monsieur Nenche avait déclaré début octobre soutenir la démarche de Maurice Kamto qui a revendiqué la victoire avant la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel, après avoir rejeté 18 recours post-électoraux, doit proclamer les résultats officiels de la présidentielle ce lundi à 11h à Yaoundé.
En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo, le FCC, a annoncé hier l'organisation d'un meeting le 27 octobre à Kinshasa, c'est-à-dire au lendemain de la date prévue d'une manifestation de l'opposition. Ce meeting de la coalition au pouvoir a été annoncé à la presse par Nehemi Mouilania, directeur de cabinet du président Joseph Kabila. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre 2018 en RDC, après deux reports fin 2016 et fin 2017. Monsieur Kabila n'est pas candidat à sa propre succession.
Toujours en RDC, au moins 11 personnes ont été tuées et 15 autres, dont 10 enfants, enlevés dans la nuit de samedi à dimanche après une attaque des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées à Beni, dans l'Est, selon des sources sécuritaires. En parlant hier de ces attaques, le colonel Safari Kazingoufou, chef de la police de la ville de Beni, a déclaré « La population est en colère, nous sommes en train d'étouffer des éventuelles manifestations ». En seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur la situation à Beni, particulièrement le sort des enfants orphelins de ces tueries.
Au Mali, une dizaine de partis et d'associations de la société civile ont créé à Bamako un mouvement nommé Convergence de forces patriotiques pour sauver le Mali. Après le report des élections législatives qu'ils contestent, de nouveau Jean-Roger Bion.
Cette nouvelle coalition est composée d'organisations dirigées par d'anciens candidats à la présidentielle, comme Moussa Sinko Koulibaly ou Oumar Mariko du parti Sadi. C'est unique dans l'histoire de notre pays, des partis de l'opposition, de la majorité des partis qui ont appelé à soutenir la candidature du président malien Ibeka et d'autres qui l'ont combattu, décident de former un même front pour défendre la République, a déclaré Oumar Mariko lors d'une conférence de presse. Les législatives ont été reportées à 2019 sur décision de la Cour constitutionnelle, prolongeant de 6 mois le mandat des députés à la demande de l'Assemblée nationale. C'est un tripatouillage juridique, a accusé Ousseynou Amion Gendo, ancien candidat à la présidentielle, tandis que d'autres intervenants ont dénoncé la mauvaise gouvernance et la corruption. Le 6 octobre, des partis d'opposition candidats à la présidentielle, syndicalistes et associations avaient annoncé la création d'une large coalition dénommée Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, afin de dénoncer les fraudes, irrégularités et bourrages d'urnes.
Au Nigeria, le gouverneur de Kaduna, état où 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des affrontements intercommunautaires, a décrété dimanche un couvre-feu de 24 heures dans la capitale de cet état du nord du pays. Des détails avec Nathalie Barge.
Le gouverneur Nasir El-Rufai a demandé aux habitants de respecter les consignes de ne pas sortir de chez eux. 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans des violences intercommunautaires à Kasuan Magani, à 50 km de Kaduna. Les violences ont éclaté jeudi à la suite d'une dispute sur le marché local. Des représailles ont été menées par des jeunes Hadara contre la communauté musulmane de la ville, où de nombreuses maisons ont été incendiées. Le couvre-feu a été décrété alors que des rumeurs se propageaient dimanche sur l'imminence d'autres représailles, des groupes de jeunes Haoussa commençant à vandaliser des voitures autour du principal marché de Kaduna. La zone de Kaduna est un foyer de tension traditionnelle entre les différentes communautés. La capitale de l'État éponyme a connu un pic de violence en 2002 lorsque plus de 3000 personnes ont été tuées en quelques jours au cours d'émeutes liées à l'organisation du concours de Miss Monde censé se tenir à Abuja, auquel les musulmans étaient opposés et qui a finalement été annulé.
Des milliers de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté dimanche à Bissau contre le manque de transparence dans le recensement électoral à l'approche des législatives du 18 novembre, a constaté un journaliste de l'AFP. La marche, à l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition, s'est déroulée d'un quartier au centre de Bissau, au siège du gouvernement, sur la route de l'aéroport. Sur une quinzaine de kilomètres, elle a été encadrée sans incident par la police.
En Égypte, un célèbre économiste critique du gouvernement a été arrêté hier après la parution d'un livre dans lequel il analyse la situation du pays en pleine crise économique et sociale, a annoncé son avocat à l'AFP. Abdelhalek Farouk avait dénoncé la semaine dernière la confiscation par les forces de sécurité des copies de son dernier livre intitulé « L'Égypte est-elle vraiment un pays pauvre ?» ainsi que l'arrestation du propriétaire de sa maison d'édition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis dimanche que son pays va révéler toute la vérité nue sur le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et critique du prince héritier Mohammed bin Salman. Riyad assure, pour sa part, ignorer le détail des circonstances de la mort de notre confrère, comme l'endroit où se trouve son corps. M. Erdogan est monté au créneau au lendemain des aveux de l'Arabie saoudite, aveux qui ont suscité une vague de scepticisme dans les grandes capitales occidentales. Le président américain, Donald Trump, est allé jusqu'à dénoncer des mensonges. Quant à M. Erdogan, il a précisé qu'il ferait une déclaration sur cette affaire mardi au Parlement.
L'Allemagne, pour sa part, n'autorisera pas pour le moment d'exportation d'armes vers l'Arabie saoudite, compte tenu de l'incertitude qui demeure autour de la mort de Jamal Khashoggi, a prévenu dimanche soir la chancelière Angela Merkel. Nathalie Barge.
Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que les exportations d'armes ne peuvent pas intervenir dans la situation où nous nous trouvons, a déclaré Angela Merkel, soulignant que tout n'a pas été dévoilé dans cette affaire. La veille, son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, avait tenu des propos similaires sur les exportations d'armes. L'Allemagne a autorisé cette année plus de 416 millions d'euros d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite. Depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de coalition d'Angela Merkel, le montant est de 254 millions d'euros. L'accord de coalition prévoyait un arrêt des ventes d'armes vers les pays impliqués dans des conflits militaires, ce qui est le cas de l'Arabie saoudite au Yémen. Le feu vert donné malgré tout aux exportations vers Riyad a provoqué des protestations. La disparition de Jamal Khashoggi a relancé le débat en Allemagne sur un réexamen en profondeur des relations bilatérales entre Berlin et Riyad.
Le conseiller du président Trump en matière de sécurité nationale, John Bolton, doit s'attendre à des questions pointues cette semaine à Moscou, après que M. Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité INF sur les missiles de portée intermédiaire. M. Bolton doit rencontrer aujourd'hui à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et demain le président Vladimir Poutine lui-même. M. Trump a accusé les Russes de construire et de tester des missiles violant ce traité de 1987, qui date donc de la guerre froide. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La société luxembourgeoise Backbone s'est associée à la microfinance ivoirienne Credit Access pour faciliter l'accès au financement à des micro-entreprises locales. Sans toutefois dévoiler le montant global de fonds reçus de Backbone, la direction de l'institution de microfinance a fait savoir que les ressources obtenues seront rétrocédées sous forme de prêts à des petites et moyennes entreprises de la Côte d'Ivoire. Celles-ci pourront obtenir jusqu'à 250 millions de francs CFA remboursables sur une période de 4 années. La banque rwandaise Bank of Kigali vient d'annoncer qu'elle allait réaliser une augmentation de capital de 67,81 millions de dollars par émission de nouvelles actions. Le prix unitaire des nouvelles actions a été financé à 270 francs. La banque offrira à partir du 29 octobre une action nouvelle pour 3 actions détenues pour un total de 222,22 millions d'actions. Les nouvelles actions seront cotées sur le marché boursier rwandais ainsi que sur le Nairobi Securities Exchange à compter du 30 novembre. Et enfin, la Banque africaine de développement va injecter 10 millions de dollars dans Chapel Hill Dynam Nigeria, un fonds d'investissement nigérian dédié au financement des infrastructures. Cet investissement vise à renforcer la distribution du gaz et la production des énergies renouvelables.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN féminine 2018, le tirage au sort de la composition des groupes a eu lieu hier à Accra.
Oui, et placé dans le groupe A, le Ghana pays hôte hérite du Cameroun, finaliste de la précédente édition, l'Algérie et le Mali. Dans le groupe B, le Nigeria tenant du titre et l'Afrique du Sud partiront favoris devant le Kenya qui a remplacé la Guinée équatoriale disqualifiée de dernière minute et la Zambie. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Précisons que la compétition aura lieu au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochain et celle-ci permettra de déterminer les 3 représentants africains à la Coupe du Monde féminine de 2019.
En Côte d'Ivoire, les travaux de construction de 4 stades pour la CAN 2021 ont été officiellement lancé.
C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a posé symboliquement la première pierre du futur stade de 20 000 places de Yamoussoukro. 2 autres stades de 20 000 places doivent être construits à San Pedro et Korogo, à Bouaké, la deuxième ville du pays. L'actuel stade va être rénové et sa capacité portée de 25 à 40 000 places selon les chiffres du ministère des Sports. À Abidjan, les travaux du stade olympique d'Epimbé de 60 000 places ont été lancés fin 2016. Et l'actuel stade Félix Houphouët-Boigny doit être rénové pour cette 33e édition de la CAN.
Direction la Tunisie, le sélectionneur Faouzi Benzarti, limogé après 3 matchs.
C'est la Fédération tunisienne de football qui l'a annoncé via un communiqué, sans pourtant expliquer les raisons de cette éviction. Cette décision est d'autant plus étonnante qu'elle intervient après 3 victoires de suite remportées lors des éliminatoires de la CAN 2019. Surpris, Benzarti n'a pas caché sa colère lors d'une déclaration accordée à Mosaïque FM. A noter que pour les 2 prochaines rencontres prévues le 16 novembre, l'intérim sera assuré par les 2 assistants, Mayer Kanzari et Mourad Okbi. En attendant, la nomination d'un nouvel entraîneur en 2019 a indiqué Kaïs Reguez, porte-parole de la fédération.
Du handball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
La 40e édition de la C1 qui a débuté le samedi pour durer 10 jours. Chez les hommes, les Ivoiriens de Red Star, après leur difficile succès en ouverture face à l'USFA du Burkina Faso, se sont inclinés hier devant les Gabonais de Phoenix 25 à 27. Les champions en titre, les Égyptiens d'Al Ahly du Caire, ont battu les Camerounais des FAP 24-17. Résultat chez les dames, pas de problème pour les Camerounaises de Dynamique Victoire, 27 à 19 face aux Ivoiriennes de Bamdama. Et puis les Congolaises d'Abo Sport ont battu leur homologue de la RDC, Héritage, 25 à 23. Enfin, du basketball pour finir, la NBA saison régulière et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Cleveland a été battu par Atlanta 111-133. LA Lakers bat Houston 115-112, Denver et Golden State 100-98, Oklahoma City battu par Sacramento 120-131.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, Tombouctou souffre de divers maux, dont l'insécurité et les braquages. En outre, d'énormes dégâts matériels ont été signalés dans les cercles de Diré et de Goundam suite aux inondations causées pendant la saison des pluies. De Tombouctou, un reportage effectué sur place par Kassim Traoré.
Face à l'insécurité grandissante doublée du banditisme, les populations du cercle de Niafunke se sont réunies le samedi 20 octobre à Soumpi. Le but est de trouver une solution à l'insécurité et le banditisme sur les routes. Boubacar Maïga, conseiller communal à Soumbou.
À moins de 5 km de la ville, vraiment les gens ne sont pas du tout en sécurité. Toute population qui doit aller dans les forêts voisines, elles sont tout le temps arrêtées, dépouillées, et même quelquefois fouettées, tuées, enlevées. Lever les motos, et etc., même les voitures. Donc vraiment, ça ne va pas du tout.
L'armée n'est pas dans la ville?
Si, on a un détachement ici, mais il paraît qu'ils sont là pour veiller sur le matériel de sa tombe. Même les villages qui viennent pour la foire ici, les jeudis, quand ils retournent à 10 km, 15 km de Niafunke, on les arrête, on les dépouille tout. Quelquefois, même les habits qu'ils portent, on les enlève.
À Tonka, dans le cercle de Goundam, où vivent 16 000 âmes, les femmes souffrent à cause des viols sur les corcos. Fanta Maïga, membre de la CAF.
On est dans l'insécurité totale. On ne peut même pas marcher à 45 km de la commune. Il y a la famine, il y a les maladies, il y a la souffrance, surtout les viols. Même quand les femmes sortent de leur village, là, il y a des viols. Parce que les bandits ont besoin des femmes. Ils sont tout autour du lac, de la commune, partout. Il n'y a pas tellement de récoltes ici. La plupart des paysans ne cultivent pas il y a 3 ans.
Direi, le cercle à cheval entre Goundam et Niafunke a été victime d'une inondation. Les populations sont laissées à elles-mêmes. Oumar Baba Maïga, habitant de Diré.
C'est un véritable déluge qui est tombé sur Diré. Nous avons eu des précipitations de mémoire de Diré, mais on n'a jamais vu. Nous avons vu des maisons s'effondrer comme des châteaux de cartes. Il y a au total 722 maisons complètement effondrées à la date d'aujourd'hui. Nous avons plus de 1500 personnes sinistrées, à divers degrés bien sûr. Les sinistrés qu'on a recensés sont de vulnérabilité diverse. On a amené des pilotes comme ça dans les quartiers pour faire évacuer des gens et leurs bagages.
Les chefs des villages jouent à la sensibilisation, surtout que l'armée malienne ne couvre pas tous les villages. Mamadou Traoré Dinti, chef de village de Niafunke.
Nous faisons de notre mieux parce que il y a certaines choses en ce qui concerne la sécurité, surtout quand on parle de sécurité. Nous, on ne voit tout de suite que les porteurs d'uniformes. Bon. Cependant, il y a lieu aussi qu'on s'évertue, sensibiliser nos gens. Alors, c'est ce qu'on continue à faire aussi parce que il faut le faire croire que ça va venir avec le temps. Non, vraiment, visiblement, on sait que nous sommes sous menace.
Pour les femmes, l'État doit faire face aux multiples attaques qui deviennent quotidiennes.
Il y a l'insécurité qui domine dans la commune. Il y a la violence faite aux femmes et aux filles par des bandits armés et des individus inconnus. Il y a les enlèvements des biens et enlèvements même d'individus. Il y a l'exode des jeunes parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a la crise totale parce qu'il y a la faim dans la commune. La récolte n'est pas dense. Dans le lac, il y a les toits qui ont amené les bétails pour manger les récoltes.
Dans la ville de Tombouctou, le MOC n'est toujours pas fonctionnel, ce qui aggrave l'insécurité aux yeux de plusieurs observateurs. Tombouctou, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Oh. Au Burkina Faso, l'excision est interdite, mais la pratique n'a pas disparu. Par exemple, 50 filles ont été excisées à Ouagadougou, la capitale, et à Kaya, dans le centre nord. Une découverte du ministère de la Femme il y a juste quelques semaines. Le gouvernement entend punir de tels actes, nous dit le correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
À une centaine de kilomètres de la capitale burkinabé, Kaya dans le centre nord, la muse de la femme est au plus grand centre hospitalier de la région. 10 filles sont internées là, dont 9 ont été excisées. Leur âge varie entre 4 et 15 ans. Selon les agents de santé, les filles sont arrivées dans un état critique. Il fallait vite agir pour éviter le pire. Docteur Honoré Tenderi, chef du département gynécologique et obstétrique.
Il s'est agi pour nous de réparer les séquelles d'excision et surtout arrêter l'hémorragie parce qu'ici c'était l'hémorragie qui était la priorité et ensuite faire les soins locaux pour éviter l'infection.
La ministre est sous le choc. C'est un drame. Laurence Ilboudou.
Je suis choquée aujourd'hui. Depuis des années, nous prônons l'arrêt de ces pratiques parce que ça ne peut aider la femme à progresser. Et il est vraiment déplorable aujourd'hui de constater qu'il y a encore des parents qui continuent à s'adonner à cette pratique.
À Ouagadougou, nous sommes cette fois-ci au centre médical protestant Chifra, l'un des grands établissements sanitaires de la capitale. Ici, le constat est amer. 41 filles qui ont entre 10 et 21 ans sont-elles aussi victimes d'excision? Les séquelles peuvent être très graves jusqu'à la reproduction de ces filles. Docteur Dieudonné Ouedraogo est le responsable du service gynécologique et obstétrique de ce centre médical protestant.
Au vu du type d'excision et des infections qui s'annoncent déjà. Si on ne fait rien, elles vont mal cicatriser. Il y aura beaucoup de séquelles pour leur vie sexuelle et aussi pour leur vie de reproduction, notamment l'accouchement.
La pratique des MGF, mutilation génitale féminine, est illégale au Burkina Faso depuis 1996. Mais force est de constater que la pratique demeure répandue dans plusieurs parties du pays. Le gouvernement veut sonner la fin de la récréation en appliquant la loi dans toute sa rigueur. La ministre de la Femme, Laurence Ilboudou.
J'ai vu mon collègue de la justice qui a saisi le procureur. Les voies judiciaires vont être mises en branle. Parce qu'il faut que les gens comprennent que l'excision est interdite. Les lois doivent être appliquées dans leur rigueur.
Début octobre, Amnesty International, l'ONG de défense des droits de l'homme, via sa section du Burkina, a déclaré dans un communiqué l'urgence de protéger les filles contre les mutilations génitales féminines. En 2015, 67,6% des femmes burkinabées âgées de 15 à 49 ans déclaraient avoir subi l'excision, selon une enquête multisectorielle continue. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un nom à retenir, Charline Katsouva, qui essaie, au milieu d'énormes sacrifices à l'orphelinat Maman Marie, de redonner espoir aux enfants orphelins victimes des tueries depuis 4 ans à Beni, dans le Nord Kivu. Notre correspondant Charlie Kasereka a visité l'orphelinat.
C'est au quartier Boyken, environ 5 km du centre-ville de Beni, que VOA Afrique est allé rencontrer ses enfants perdus de Beni. 65 ans d'âge, Charline Katsouva a eu l'idée d'héberger des enfants après la mort de son propre garçon et la souffrance de nombreux enfants restés seuls après la mort de leur maman à l'accouchement. Mais c'est vers octobre 2014 que maman Charline a créé son orphelinat après les premiers massacres des civils. Aujourd'hui, le plus âgé de sa maison a 19 ans et le cadet n'a que 2 ans.
Tous ces enfants ne savent rien de leur famille. Beaucoup d'entre eux sont venus juste après le début des massacres ici chez nous à Beni. Aujourd'hui, j'héberge 26 enfants.
Ici, chacun de ces enfants a une histoire propre à lui. Certains ont vu comment leurs parents ont été tués et il s'en est sorti miraculeusement. C'est le cas des princes, 12 ans. Il est ici depuis 2 ans.
Moi, ils ont tué mon père et ils ont amené ma mère avec eux. Ce soir-là, je me suis caché juste quand ils avaient tourné le dos. J'ai pris la fuite et le lendemain, j'ai été amené ici. On m'a lavé et donné des habits et depuis, je vis ici.
Cette demeure qu'elle loue est devenue un refuge et une maison d'accueil pour plusieurs enfants dont les parents sont morts dans les massacres de Beni depuis 2014. L'espace est donc insuffisant. À la tombée de la nuit, les nattes et les morceaux de matelas sont étalés dans une maison où des meubles doivent être superposés avant le sommeil. Mais tout d'abord, les repas. Madame Katouva doit veiller si tout le monde a eu son plat. Seule sans soutien, avec ses 65 ans d'âge, Katouva Charline brave d'énormes difficultés, surtout la nourriture et les loyers pour la petite maison qu'elle loue au quartier Boïken, un quartier souvent attaqué par les éléments de la rébellion des ADF.
Pour dormir, nous étalons au sol des morceaux de matelas, de bâches et de sacs dans cette nouvelle maison. Je demande surtout à la première dame, Olive Lembe, de me venir en aide.
L'orphelinat Maman Marie n'a jamais eu de documents légaux qui coûtent énormément cher, selon Madame Charline Katouva, qui fait savoir à VOA Afrique qu'elle est souvent tracassée par les services de sécurité et les propriétaires de la maison avec des menaces d'expulsion suite à l'insolvabilité du loyer. Des retours de Béni, Charlie Kassereka, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la General Trading Company, créée par les frères Jumbo, expérimente la culture de palmiers à huile en zone de savane. Depuis des années, le pays ne cultive ses palmiers qu'en forêt, et pour cela, il faut raser de grandes étendues de massifs forestiers. Notre correspondant Arsène Séverin a visité les plantations de palmiers à huile au village Gansou. Son reportage.
Il y a quelques années, 180 000 hectares de forêt avaient été attribués dans le département de la Cuvette à une société, Atama Plantation, pour être rasés et remplacés par les palmiers à huile. L'affaire avait fait polémique, plusieurs journalistes avaient dénoncé le projet. Aujourd'hui, ce permis d'exploitation est suspendu. Le Congo-Brazzaville, c'est aussi 35% du territoire couvert de savane. Et c'est sur ces surfaces de savane que les frères Jumbo et leur entreprise GTC expérimentent les cultures de palmiers à huile à Gansou, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Michel Ndjombo.
Nous avons vu qu'il y avait un réel intérêt à s'installer en savane pour faire du palmier, parce que les différences de rendement n'étaient que de 30% par rapport à la forêt. Aujourd'hui, nous sommes à 10,5, donc 10 tonnes et demie par hectare de régime. On a vraiment la conviction ferme que les nouvelles surfaces qui ont été plantées par GTC, nous nous disons que nous pourrons gagner 1 à 2 tonnes par hectare en plus que ces surfaces. Donc on sera autour de 12 tonnes hectare. Et ça, c'est à comparer avec la forêt qui, en zone de forêt en Afrique centrale, c'est plutôt 15 tonnes hectare.
Le Congo-Brazzaville a eu une grande expérience en palmiers à huile, ce qui semble s'étioler 40 ans après. GTC a fait recours aux techniciens ivoiriens pour bien conduire son projet.
Je suis Marcelin Tando, je suis venu de Palmissi. On avait quelques maladies qu'on a essayé de corriger. On a extendu encore la parcelle d'exploitation et aujourd'hui, nous sommes venus en 2015. Les parcelles que nous avons plantées sont entrées en production présentement. Nous sommes en zone de savane, je reviens sur ce côté. Nous étions à 6 tonnes l'hectare, nous sommes passés à 8 tonnes l'hectare jusqu'en 2017.
Du côté de la recherche scientifique, les doutes subsistent, notamment sur le rendement. Mais la nouvelle expérience mérite d'être soutenue. Le chef du département sylviculture et dynamique forestière à l'Institut national de la recherche forestière, Jean-Pierre Campé.
Oui, présentement, je me dis, c'est à quel prix qu'on va donc produire en savane, parce que ça va nécessiter effectivement beaucoup d'argent. Non, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. L'optimum serait que maintenant qu'ils se veulent bien s'y mettre, que l'on fasse des essais, et aussi bien des essais de densité que des essais de fertilisation. Et je n'exclus pas qu'il y ait des maladies et des ravageurs qui pourraient également s'y mêler. Et nous, on est prêt à vouloir bien mettre notre politique de recherche pour aider ces industriels.
La culture de palmiers à huile pourra booster toute la politique de relance agricole que le Congo entend mettre en place. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia, Washington.